Credo. Une exploration des fondamentaux de la foi chrétienne avec Monseigneur Battu, évêque auxiliaire de Toulouse.
Le Concile de Constantinople, 381, est son symbole. Le Concile de Constantinople est un concile paradoxal. Il est reconnu œcuménique alors qu'il n'avait pas voulu l'être, puisqu'il avait été convoqué par l'empereur Théodose qui, à l'époque, ne commandait encore qu'en Orient. C'est pourquoi les auteurs latins contemporains, par exemple saint Jérôme, n'en parlent pas. La documentation sur ce concile est elle-même lacunaire et les actes du concile sont perdus. Nous n'avons que la liste des évêques présents, tous orientaux, et le texte du symbole qui lui doit son nom. Autre paradoxe, le siège épiscopal de Constantinople était occupé depuis 40 ans par des évêques favorables aux Ariens, mais c'est pourtant à Constantinople que l'arianisme a reçu le coup de grâce. Le Saint-Pape Damase, bien qu'absent du concile, a influencé ses travaux, en particulier par l'intermédiaire de l'empereur Théodose. Théodose était devenu empereur après la mort de l'empereur d'Orient Valens, qui était pro-arien. L'Orient n'ayant plus d'empereur, l'empereur d'Occident Gratien avait confié à ce jeune général le soin d'y faire régner l'ordre et de le défendre contre les barbares, de plus en plus menaçants. Théodose avait bien rempli sa mission, remportant de grands succès, et Gratien avait fini par le mettre à la tête de cette partie de l'Empire en 379. Théodose était un catholique convaincu, défenseur, comme il le dit lui-même, de la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'autre part, il était lié personnellement à son compatriote le pape Damase, espagnol comme lui. Il n'avait donc aucune difficulté à considérer que la vraie foi est celle dont l'évêque de Rome est le garant. Et comme il avait remarqué l'envergure théologique exceptionnelle de Grégoire de Nazianze, il l'avait imposé en 380 comme évêque de Constantinople à la place d'un évêque arien. Le projet de Théodose était d'y convoquer un concile, comme l'avait fait Constantin près de 60 ans plus tôt dans son palais impérial de Nicée. Le choix de Constantinople était aussi un choix politique. Il faut se rappeler que cette deuxième capitale était toute récente, puisque fondée par Constantin un demi-siècle plus tôt. Et l'enjeu était de lui donner un rang ecclésial avantageux, à côté des grands sièges épiscopaux de Rome, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Alexandrie étant rattachée à Saint-Marc et Antioche comme Rome à Saint-Pierre, on cherchera donc à rattacher Constantinople à Saint-André afin qu'elle soit considérée comme la nouvelle Rome. Le concile va donc propulser Constantinople au deuxième rang des patriarcats historiques. Un texte normatif du concile, le canon 3, proclamera d'ailleurs que, je cite, « l'évêque de Constantinople est le second après celui de Rome ». Mais la situation politique est bien plus précaire dans les années 80 qu'à l'époque de Constantin. C'est pourquoi Théodose se résigne à ne convoquer que les évêques d'Orient, au nombre d'environ 150, auxquels il faut ajouter 36 adversaires de la divinité de l'Esprit, invités eux aussi pour qu'ils puissent exposer leur thèse devant l'Assemblée. À la différence de Nicée, nous n'avons pas les actes du concile. Nous savons seulement que les évêques catholiques ont essayé de convaincre les Ariens, mais évidemment sans succès, et que les Ariens ont fini par claquer la porte du concile. Un autre grand personnage a lui aussi claqué la porte, c'est Grégoire de Nazianze, excédé par les intrigues mesquines de certains évêques, qu'il traite dans un discours fracassant de bande de pies qui jacassent, avant de se retirer définitivement pour terminer sa vie dans la pénitence et la contemplation. Mais, malgré toutes ces péripéties, nous avons le symbole de Constantinople, qui est à quelques détails près celui que nous utilisons encore aujourd'hui. Qui a rédigé ce texte? Officiellement, ce sont les 150 évêques présents, mais l'histoire du texte est complexe et mal connue. Nous avons toutefois le témoignage d'un contemporain qui s'appelle Théodore de Mopsueste. Voici ce qu'il dit. Les pères de Nicée ont écrit simplement, sans approfondir, et au Saint-Esprit. ils ont estimé que cela suffisait à l'auditoire de cette époque. Mais leurs successeurs nous ont transmis sur l'Esprit Saint un enseignement complet. Ce sont d'abord les évêques occidentaux qui se sont réunis en concile parce que la persécution des Ariens les empêchait de se rendre en Orient. Plus tard, comme la persécution avait pris fin par la grâce de Dieu, les évêques d'Orient ont accueilli à leur tour dans la joie la doctrine transmise par ce concile d'Occident. Fin de citation. Voilà un témoignage intéressant parce qu'il suppose l'existence d'un texte occidental antérieur à celui de Constantinople. Nous savons en effet que le pape Damase avait envoyé un symbole en Orient, mais nous n'en savons pas plus. Ce qu'il faut retenir, c'est que le symbole de Constantinople a certainement été rédigé en utilisant des éléments venus de l'Église d'Occident, et donc que l'Occident a apporté sa contribution, même si aucun évêque occidental n'était présent, mais que le développement sur l'Esprit-Saint est très probablement l'œuvre des pères du Concile, et spécifiquement des pères cappadociens, les deux Grégoire héritiers de la pensée de saint Basile. Pour conclure sur l'histoire du symbole, il faut mentionner un dernier point étonnant. Il tombe dans un oubli presque complet pendant 70 ans, et c'est le concile de Chalcédoine en 451 qui le ressortira et qui l'acclamera comme conforme à la foi de Nicée. Et c'est ainsi que le concile de Constantinople a été reconnu après coup comme un concile écuménique. De cette histoire compliquée, nous avons hérité le symbole de Nicée-Constantinople, notre credo, qu'on devrait plus justement appeler le symbole de Constantinople tout court. Nous allons maintenant regarder de près le texte du symbole de Constantinople dans ce qu'il a de plus original, c'est-à-dire tout ce qu'il dit au sujet du Saint-Esprit. Il y a 6 affirmations à ce sujet dont on peut remarquer qu'elles renoncent au vocabulaire philosophique du consubstantiel utilisé par Nicée, et qu'elles avancent de façon très prudente puisqu'elles ne disent même pas explicitement que l'Esprit-Saint est Dieu. La première affirmation reprise de Nicée, c'est le terme même d'Esprit-Saint. C'est un terme biblique. La sainteté est le qualificatif propre à l'Esprit, à tel point qu'il rend superflu l'adjectif unique qui avait été utilisé pour le Père et le Fils, un seul Dieu, un seul Seigneur. On ne dit pas un seul Esprit Saint. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que le Père et le Fils ne sont pas saints, mais cela veut dire que la sainteté commune aux trois personnes nous est communiquée par l'Esprit. Et comme la sainteté est un attribut de Dieu, en disant que l'Esprit est saint, on sous-entend qu'il est Dieu, et que parce qu'il est Dieu, il a la puissance de sanctifier, de rendre saint. Il est sanctificateur comme le Père est créateur et le Fils rédempteur. C'est aussi, comme nous le verrons, le fondement de notre foi en la sainteté de l'Église. Si l'Église est l'œuvre de l'Esprit-Saint, elle ne peut être que sainte. La deuxième affirmation, c'est le titre de Seigneur donné à l'Esprit. Je crois en l'Esprit-Saint qui est Seigneur. On ne l'appelle pas Dieu, nous l'avons déjà relevé, mais le nom de Seigneur est un nom divin. C'est par ce nom, en grec « kurios », que la Bible grecque traduisait l'imprononçable tétragramme YHWH, parfois vocalisé en Yahvé. C'est ce nom de Seigneur que les évangiles, celui de Saint-Luc en particulier, utilisent pour parler de Jésus. Et dans Saint-Jean, l'apôtre Thomas, reconnaissant Jésus ressuscité, s'écrit « Mon Seigneur et mon Dieu » en Jean 20, 28. Par conséquent, donner ce titre de Seigneur à l'Esprit, c'est le mettre sur le même plan que le Père et le Fils. La troisième affirmation consiste à dire que l'Esprit donne la vie. On a le droit de regretter que la traduction française renonce à traduire un adjectif par un adjectif. On aurait pu traduire le mot grec par « vivifiant ». Et c'est dommage qu'on y ait renoncé pour des raisons qui m'échappent. L'Esprit est vivifiant comme il est créateur et comme il est sanctificateur. Il est, dit Jésus dans le discours du pain de vie, l'Esprit qui vivifie, Jean 6, 63. En cela, il est différent des créatures qui reçoivent la vie, qui la transmettent par la procréation, mais qui n'en sont pas l'origine. Il est du côté de ceux qui donnent et non du côté de ceux qui reçoivent. La quatrième affirmation la plus importante va donner la raison de cette spécificité de l'Esprit. « Il procède du Père », dit Jésus en Saint Jean, chapitre 15, verset 26, dans une formule reprise à l'identique dans le symbole. C'est encore Grégoire de Nazianze qui a mis cela en valeur dans son 31e discours théologique. Dans la phrase du Christ en Saint Jean, le verbe « procéder » désigne avant tout l'envoi de l'Esprit-Saint dans le monde. « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il me rendra témoignage », dit Jésus. Sans doute les évêques réunis à Constantinople n'ont-ils pas voulu en dire davantage. Mais on peut aller plus loin et passer de la considération de ce qui se produit à partir de Dieu à la considération de ce qui se produit en Dieu. L'Esprit procède. N'est-ce pas ce verbe qui peut le distinguer à la fois du Père qui engendre et du Fils qui est engendré? Comme le Fils, l'Esprit est issu du Père, mais de manière différente. Il n'est pas issu du Père par engendrement, mais par procession, et c'est ce qui fait qu'il n'est pas un second Fils. Mais qu'est-ce que la procession à partir du Père? Dans nos langues latines, le mot a un sens très élastique, pour ne pas dire très vague. Mais dans le grec, le mot équivalent est beaucoup plus précis, et nous y reviendrons dans notre prochaine réflexion.